Radio de la Paix, il est 12h. Du midi, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. En retour du calcul mental dès cette rentrée scolaire, 4 jours au lieu de 5 pour les cours au préscolaire et au primaire. Le mercredi étant désormais dédié aux activités pédagogiques. Telles sont quelques réformes annoncées par la ministre de l'Éducation nationale, Maria Tukone, hier à la grande réunion de rentrée à Aniama. Déguerpissement à Yopougon-Jesco, opération réussie grâce à la collaboration des populations selon le district autonome d'Abidjan. Toutefois, ces dernières dénoncent le non-respect de certaines mesures. Vous en saurez plus dans quelques instants avec notre reporter terrain Christelle Yesso. Hors de nos frontières au Sénégal, la révision de la Constitution rejetée hier par l'Assemblée nationale, ceci après de longs débats. Et puis l'invité de la rédaction sera Victorien Aka Ntaye, récemment reconduit président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Il fera un bilan de son premier mandat. Victorien Aka Ntaye en profitera pour dévoiler ses priorités à la tête du Razalao pour les 3 années à venir. Il sera en fin d'édition avec Jean-Claude Comé. La grande réunion de rentrée s'est tenue hier lundi 2 septembre au lycée moderne d'Aniama. Les grandes lignes pour l'année académique 2024-2025 ont été présentées par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tukone. On en sait plus avec vous, Jean-Mélène Bitti.
Lors de son discours d'orientation, Maria Tukone s'est réjouie du retour de la dictée selon les recommandations de l'EGENA.
Le retour de la dictée a mis la Côte d'Ivoire sur le toit du monde.
Pour une école de qualité, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé plusieurs dotations en tables à bancs et de kits scolaires.
Pour cette année scolaire, 34 098 tables à bancs et 4 116 957 kits scolaires seront distribués aux élèves de l'enseignement primaire public dès la rentrée.
Pour la mise en application effective des réformes, Maria Tukone a tenu à faire ses recommandations.
Ne peut tenir une classe de préscolaire, de CP1 et de CP2 dans une école publique qu'un enseignant ayant participé à la formation sur le PENAPAS. Tous les élèves de la grande section du préscolaire, du CP1 et CP2 dans les établissements publics devront recevoir obligatoirement les manuels prévus au titre du PENAPAS au plus tard le 9 novembre 2024.
En termes d'innovation pour cette année scolaire, la ministre en charge de l'éducation dit ceci.
La rentrée scolaire 2024-2025 va accroître le retour du calcul mental en vue de renforcer les capacités de nos apprenants en mathématiques. Au niveau préscolaire et primaire, les cours se dérouleront le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi est consacré aux activités pédagogiques.
Maria Tukone a annoncé l'instauration d'un prix d'excellence en faveur des enseignants du primaire, des lycées et collèges, ainsi que des éducateurs.
Suite au discours d'orientation générale pour cette nouvelle année scolaire de la ministre Maria Tukone, les acteurs du système éducatif en Côte d'Ivoire ont réagi. Retrouvons là-dessus quelques-uns au micro de Jean-Mélène Bitti.
Dodédé Benoît, chef d'établissement au collège moderne d'Akradio. C'est un discours apaisant, c'est le chef. Ce sont des instructions que nous recevons, que nous allons appliquer à 100%. Depuis 3 ans, on a le même thème. Nous sommes en train de rentrer progressivement dans la vision de Madame le ministre.
Diabaté Mamadou, coordonnateur exécutif national du collectif des enseignants pour la prime. Nous ne savons pas encore satisfait. On s'attendait aujourd'hui à ce que la ministre nous dise que les primes seront octroyées aux enseignants cette année. Et c'est pas ce qu'on a entendu dans son discours.
Jacques Laroux, secrétaire général national de l'Union nationale des instituts pour le changement unique, avec des annonces majeures qui ont été faites par Madame le ministre de l'Éducation. Déjà dans le primaire, il y a la suppression des cours de mercredi. Les enseignants du primaire seront face à 4 jours qui vont leur permettre de préparer les cours en amont avant de venir dans les salles de classe. Parce que chaque jour, préparer un cours et aller le lendemain, ça épuisait les enseignants du primaire. C'est déjà bien. Au niveau du secondaire, il y a des avancées majeures. Mais ce que nous retenons le plus, c'est que de part et d'autre, il y a des concessions qui sont faites de par le pouvoir public et par les syndicalistes. Mais ce qui va retenir notre attention pour cette année scolaire, il faille que l'État de Côte d'Ivoire pense à la prime des enseignants de Côte d'Ivoire. Parce que le niveau de vie des enseignants est vraiment dérisoire. Parce qu'il ne peut pas avoir une école de qualité sans une vie meilleure pour les enseignants de Côte d'Ivoire.
À l'instant, les impressions et attentes de différents acteurs du système éducatif sur les grandes lignes annoncées par la ministre de l'Éducation nationale pour cette nouvelle année scolaire. La 10e édition du prix national d'excellence du meilleur élève a été célébrée le vendredi 30 août à Abidjan, organisée par la compagnie nationale d'électricité. Elle a récompensé les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux à grand tirage, et ce dans l'enseignement général et l'enseignement technique. Mel Emmanuel pour le compte rendu.
Un chèque, une plaque d'honneur, une médaille et des présents, tels sont les lots dont ont bénéficié les lauréats de cette cérémonie d'excellence. Les motifs et objectifs de cette célébration nous sont ici expliqués par le directeur de l'entreprise instigatrice de ce prix, la Compagnie Nationale d'Électricité, Amadou Bakayoko.
Le faisant, un des objectifs, c'est de stimuler leurs camarades à suivre leur raison et à ne pas céder aux raccourcis de la vie. Travailler à être le meilleur dans une société où le mérite se mesure par l'excellence du travail abattu. En inscrivant depuis 10 ans maintenant cette décision d'accompagnement de l'école ivoirienne dans nos actions sociétales, nous optons pour la construction de ressources humaines de qualité en faveur de la poursuite du développement de la Côte d'Ivoire.
Les lauréats, composés d'élèves de l'enseignement général et de l'enseignement technique, ont tenu à exprimer leur gratitude au ministère de tutelle ayant garanti leur arrivée à ce sacre. Kenza Wassenan, porte-parole des récipiendaires.
Être mis en lumière en ce jour montre notre dévouement dans nos études et constitue la meilleure marque d'attention qui nous incite à rester humbles. Nous adressons aujourd'hui nos plus sincères remerciements au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et au ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage qui mettent tout à la disposition des élèves de la Côte d'Ivoire.
Avant ce couronnement, les lauréats ont effectué des visites de sites techniques et touristiques et participé à des ateliers de formation et d'orientation sur leur choix de carrière. Le prix national d'excellence du meilleur élève est à sa 10e édition et a mis en lumière cette année 9 élèves partant du primaire au secondaire.
Déguerpissement dans la commune de Yopougan. Contrairement à d'autres communes, l'opération menée par le district autonome d'Abidjan s'est déroulée sans incident. Cependant, certains habitants expriment des préoccupations concernant le non-respect de la distance annoncée. C'est ce que nous explique Christelle Yesso qui était sur le terrain.
Les différentes artères de la commune de Yopougan, depuis l'autoroute jusqu'à Jesco, ont toutes été déguerpies. Une opération réussie grâce à la participation de la population, explique le directeur de cabinet du gouverneur du district, Abou Oscar.
Ça se passe bien à Jesco. Nous sommes avec les populations. Nous avons fait le tracé ensemble. En tout cas, les populations, nous avons travaillé pour marquer d'abord les différents sites qui devaient être libérés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser.
C'est Bois Bigoré, président du comité de gestion du quartier Jesco, qui s'est chargé de la mission de sensibilisation des habitants.
On a été informé depuis le mois de février, je crois bien. C'est-à-dire que la rivière jusqu'à au kilomètre 17 allait déguerpir. Depuis vendredi, on a commencé la sensibilisation. Donc ça fait qu'il n'y a pas eu de mouvement pour affronter le district d'Abidjan.
Malgré le calme apparent, les populations se plaignent du non-respect de la distance annoncée.
Sanogo Pisana. On dit dimanche, ils vont prendre 50 mètres. Moi, je n'étais pas dans les 50 mètres. Si j'étais dans les 50 mètres, il y a longtemps, j'ai cherché une maison pour aller ailleurs.
Marguerite, on nous a dit que pour nous, on ne peut pas casser. On est resté après. La machine est venue. Il a cassé devant nous comme ça.
La phase de déguerpissement terminée débutera maintenant la phase de recensement, rassure le président du quartier.
Le DICAB et puis les collaborateurs du DICAB ont dit qu'on peut toujours continuer à recenser. Surtout que nous sommes les responsables du quartier. On connaît à peu près quels sont ceux qui habitent ici. On a prévu qu'à partir de demain, on va commencer le recensement.
Les quartiers de la commune de Yopougan ont été touchés par ces déguerpissements qui ont pour but d'embellir la ville d'Abidjan.
Et puis, dans le cadre du renforcement de capacité des femmes sur les défis liés à l'extrémisme violent, le CRPA, Centre de Recherche Politique d'Abidjan, a organisé récemment à Odinée un atelier de formation, une initiative en faveur des femmes leaders dont nous parle ici Dr Flomoke César. Il est le directeur du CRPA.
En termes d'édification des valeurs, on voit bien que la femme constitue le maillon essentiel. À partir de la famille, qui est la première cellule de base, l'action de la femme ou encore le rôle que la femme joue ou peut jouer face à l'extrémisme violent réjaillit dans toute la société. Les femmes constituent pour nous, au Centre de Recherche Politique d'Abidjan, des vecteurs essentiels face à l'extrémisme violent et face à la radicalisation. C'est pourquoi nous saluons l'agence américaine du développement international, USAID, et aussi DEI, qui finance le projet sur la thématique femmes, paix, stabilité et développement. Donc c'est dans le cadre de ce projet que nous sommes à Odinée et nous avons eu à travailler avec une trentaine de femmes, leaders d'opinion. Il faut intérioriser le fait que le terrorisme ou encore l'extrémisme violent est la première menace à la sécurité des individus et des États aujourd'hui. Et les femmes qui constituent nos cibles dans le cadre de ce projet-là ont un rôle majeur à jouer. Nous savons la responsabilité qui incombe à la femme dans la famille et dans la société. Et donc, en renforçant leur résilience, nous concourons à la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation.
Docteur Flomoke César, directeur du Centre de Recherche Politique d'Abidjan, dans des propos recueillis par Bakary Touré-Labasse. Parlons météo à présent. Depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire connaît une vague de froid, surtout dans la partie sud. Et la Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, appelle les populations à se protéger pour éviter de tomber malade. On écoute à ce propos son chef du service modération, Adia Benjamin Aristide.
Effectivement, depuis le mois de juillet, on a constaté un temps assez frais. Dans le mois d'août, c'est là où nous avons nos températures les plus faibles. Vous savez que pour le sud, nous avons quatre saisons. La grande saison des pluies qui commence généralement en mars et qui se termine fin juin vers mi-juillet. Et de mi-juillet à mi-septembre, on a une pause pluviométrique qu'on appelle communément la petite saison sèche au sud, marquée par donc un temps très nuageux. Et en même temps, on a aussi une température très basse au niveau de la mer.
Ce temps froid va durer jusqu'à quand, selon vous?
Alors, ce temps froid va durer jusqu'à mi-septembre, mais à partir de septembre, les températures vont commencer à augmenter légèrement. Et fin septembre, on aura donc le retour de pluie. Nous sommes dans une situation de temps assez froid et donc c'est un inconfort parce que nous sommes habitués à un climat généralement chaud. Et donc, le conseil que Sodexam donne à la population, c'est que pendant ce temps, il faut se vêtir chaudement, il faut se tenir au chaud. Il faut donc prendre les dispositions par rapport à tout ce qui est fraîcheur. Il y a d'autres qui ont des maladies liées au rhumatisme qui pourraient être aggravées aussi par les temps de fraîcheur. Donc, c'est des conseils d'usage, des conseils pour prendre des dispositions pour se tenir au chaud.
Adia Benjamin Aristide, chef du service modération de la Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, joint par Clara Dacosta. Au Sénégal, après 11 heures de débat, les députés réunis en séance plénière extraordinaire ont rejeté hier lundi dans la soirée le projet de loi visant à modifier la Constitution. Le gouvernement les avait saisis pour entériner la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Une promesse de campagne de Bassirou Diomaye Faye lors de la campagne présidentielle, rapporte l'AFP. À propos de la Israël-Hamas, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a demandé au juge de statuer d'urgence sur l'émission de mandat d'arrêt contre les dirigeants des deux parties au conflit. Cette demande est justifiée à l'effet de prévenir l'escalade de la violence dans la région. Comme nous l'explique ici le coordonnateur des coalitions francophones pour l'Afrique de la CPI, Ali Ouattara.
Depuis le 20 mai 2024, le procureur de la CPI, M. Karim Khan, a demandé à la Chambre préliminaire des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien, le ministre de la Défense israélien et trois dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre des crimes contre l'humanité présumés. Et donc, ces mandats d'arrêt devraient être analysés par des juges de la chambre préliminaire et validés avant d'être délivrés. Donc, comme vous le rendez compte, ces trois juges-là, à peu près un mois, deux mois, pour pouvoir statuer là-dessus. Et vu l'urgence catastrophique par rapport à la situation à Gaza, il faut comprendre que le procureur s'inquiète que ces crimes-là puissent être étendus, et notamment qu'il y ait plus de victimes encore, surtout qu'il y a des enfants, beaucoup de civils. Donc, comprenez que c'est une inquiétude grandissante du procureur et à cette situation poussée à demander qu'il y ait une urgence qui pourrait peut-être dissuader, parce qu'en fait, il y a des mandats qui sont émis officiellement, donc ça pourrait dissuader justement les exactions qui ont lieu actuellement en Israël par rapport aux populations civiles.
Ali Ouattara, le coordonnateur des coalitions francophones pour l'Afrique de la CPI. Et puis, nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est Victorien Aka Ntaye, récemment reconduit président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Il fait un bilan de son premier mandat. Victorien Aka Ntaye en profite pour dévoiler ses priorités à la tête du Razalao pour les trois années à venir. Sur le sujet, il est avec Jean-Claude Comé.
Monsieur Aka Ntaye Victorien, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes présentement le président du Razalao, section Côte d'Ivoire, et président régional. Vous avez été reconduit récemment. Alors, si on vous demandait de présenter donc le Razalao, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette organisation sous-régionale?
Il faut déjà dire que le Razalao est une organisation qui est basée dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et également, le Razalao, au niveau de sa section ivoirienne, a été mis sur pied le 21 juillet 2007 et a pour mission principale de contribuer à l'avènement d'un environnement sécurisé, paisible et propice au développement durable. Et a pour champ d'action la paix, la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, la cohésion sociale et surtout la sécurité, en l'occurrence la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre et la promotion de la sécurité humaine.
Alors justement, hein, avec ces différents axes déclinés, alors que retenez justement par rapport à vos actions?
Il faut dire qu'aujourd'hui, ça fait 17 ans que le Razalao est dans les communautés, est aussi engagé aux côtés de l'État pour pouvoir contribuer à la réduction de la violence armée en milieu communautaire. Mais surtout, le Razalao a eu comme acquis, ses plaidoyers ont permis de mettre sur pied la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, appelée comme l'ALPC, la section ivoirienne, le 30 avril 2009. Mais également, dans ses actions de plaidoyer surtout, nous avons pu permettre à notre État de ratifier un certain nombre d'instruments juridiques internationaux, notamment la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre et autres matériels connexes, mais surtout le traité international sur le commerce des armes. Et également, le Razalao a pu faire connaître la thématique des armes légères de petit calibre à l'ensemble des communautés vivant en Côte d'Ivoire, aux côtés des structures étatiques, notamment la Comnat ALPC. Nous avons malheureusement pas encore fini de travailler parce que le champ est vaste, surtout pour ce qui est de la question de l'harmonisation de notre loi nationale sur les armes avec les instruments juridiques internationaux ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours un peu à la traîne.
Vous avez été réélu récemment. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre mandat en tant que président?
En tant que président, le premier mandat, il faut pouvoir signifier que le premier mandat a débuté le 12 août 2021. En plein COVID-19 et l'avènement de la COVID-19 a aussi freiné beaucoup nos actions en milieu communautaire. Mais nous avons conjugué nos efforts pour pouvoir mieux orienter nos actions. Cela nous a permis en 3 ans de pouvoir réaliser 7 projets majeurs, notamment des projets en milieu communautaire, mais surtout notre programme en milieu scolaire intitulé L'école, un cadre d'apprentissage dans la non-violence et de promotion de l'excellence. Également, nous avons pu mettre à notre actif une activité périodique qui se fait chaque 7 décembre. On a appelé l'organisation de la marche blanche contre la violence en milieu scolaire, notamment la violence armée. D'ici décembre, nous serons à la 3e édition. Mais également, nous avons toujours continué dans le sens des actions de plaidoyer aux côtés de l'État et ses demandements, de sorte que notre pays puisse harmoniser notre loi nationale sur les armes avec les instruments juridiques internationaux de contrôle d'armes ratifiés par le pays. C'est le lieu également de remercier les différents partenaires qui nous ont accompagnés durant ces trois dernières années dans les sept projets, notamment le premier partenaire phare, c'est notre Commission nationale de lutte contre les armes légères de petit calibre, le Conseil national de sécurité, l'Union européenne, l'ONG Suisse Cogenta et également Friedrich Elbert.
Quelles seront vos priorités au vu de ce que vous avez pu réaliser dans le premier mandat?
L'une des actions phares que nous voulons mener à l'approche des élections, c'est de contribuer également à un environnement apaisé, propice à des élections inclusives, sans violence et sans armes. Intitulé « Ma minute numérique sécurisée contre la désinformation et les discours de haine pour des élections inclusives, apaisées, sans violence armée ». Également, nous avons pour souci de pouvoir vulgariser la doctrine de la police de proximité au sein des communautés. Cette doctrine peut nous aider à pouvoir apporter une solution durable à ces défis sécuritaires qui se présentent à nous. Donc, notre souci, c'est de vulgariser cette doctrine au sein des communautés sur l'étendue du territoire, mais d'abord à commencer par le Grand Nord où l'extrémisme violent se fait de plus en plus présent.
Et sur ce point donc de la menace terroriste, qu'est-ce que concrètement vous avez fait pour sensibiliser les populations?
Nous, on a déjà commencé à attaquer le problème surtout avec les élèves. Pour nous, quand ces entrepreneurs de violence viennent vers eux pour pouvoir les enrôler dans ce genre d'action, les élèves puissent avoir cette résilience de pouvoir les refouler. Mais surtout de remonter des informations auprès des autorités compétentes. Donc, ça nous a permis de faire certaines localités, notamment Fake, Bouna et Odimé.
C'est noté. Merci à vous, M. Aka Ntaye Victorien, président donc du Razalao, section Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup et puis merci à la radio de la...
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Victorien Akantae, reçu par Jean-Claude Comé. C'est la fin de ce 12h, le rappel de l'essentiel. Retour du calcul mental dès cette rentrée scolaire. 4 jours au lieu de 5 pour les cours au préscolaire et au primaire. Le mercredi étant désormais dédié aux activités pédagogiques. Telles sont quelques réformes annoncées par la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukoné, hier à la grande réunion de rentrée à Aniama. Et puis, hors de nos frontières au Sénégal, la révision de la Constitution rejetée hier par l'Assemblée nationale, ceci après de longs débats. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, 15h pour un flash d'information. Mais avant, la revue de presse avec Mel Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous. Hier s'est tenue à Aniama la traditionnelle réunion de rentrée.